Radio Okapi.
Les informations, je suis Moussa Oupondé.
Fermeture des banques dans les zones occupées de l'est du pays. L'ONG Badilika Droits Humains dénonce une punition collective et s'alarme des conséquences sur la population civile. La mission d'enquête sur les massacres des civils à Fataki en Ituri contrainte de suspendre ses travaux. La cause, une insécurité persistante et la non-collaboration de la population influencée par des politiques locaux. La persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC rend l'accès humanitaire de plus en plus difficile pour les populations vulnérables. Constat alarmant de Caritas Congo, il lance un appel pressant à la communauté internationale pour la pacification et à ses partenaires pour le soutien financier. Pour en parler, nous recevons dans ce journal le secrétaire exécutif de Caritas Congo, l'abbé Edouard Makimba. Bonjour à tous, commençons au Nord Kivu. L'organisation Badilika Droits Humains exprime sa vive inquiétude face aux conséquences dramatiques de la fermeture des banques et institutions financières dans les territoires occupés de l'Est de la RDC. Imposée par le gouvernement congolais depuis janvier 2025, indique que cette ONG, cette mesure prive plusieurs centaines de milliers de civils de l'accès à leurs propres ressources financières. L'ONG décrit une misère généralisée, des familles brisées, enfants déscolarisés, des femmes et personnes vulnérables abandonnées à la faim et à la précarité. Plus de détails avec vous, Micheline Chouala.
Le communiqué de presse numéro 002 de Badilika Droits Humains parle de témoignages recueillis sur terrain d'un effondrement économique observé par le commerce paralysé, le marché désert, l'inflation galopante. D'autre part, les salaires bloqués, les enseignants et agents de santé et fonctionnaires sont privés des revenus, explique le communiqué. Sur le plan de la santé, le rapport parle des hôpitaux sans médicaments ni matériel, les soignants impayés, patients livrés à eux-mêmes. Badilika qualifie cette fermeture de banque d'une punition collective inflige à des populations innocentes déjà victimes de la guerre. Elle demande la réouverture immédiate et sécurisée des banques, la mise en place de mécanismes alternatifs de paiement, notamment les mobile money, guichets spéciaux et d'autres. Badilika conclut en disant que le gouvernement ne peut pas continuer à dialoguer avec les rebelles du M23 tout en abandonnant sa population, peut-on dire.
Le calme est revenu hier mercredi après-midi à Mwenga Centre après une matinée agitée. Selon nos sources dans cette région du Sud Kivu, un groupe des combattants Wazalendo s'est affronté à un autre soutenu par l'armée. En cause, le démantèlement des barrières illégales érigées dans la zone par des groupes armés dits Wazalendo. Des détails avec vous, Ronéline Tibunera.
L'élément déclencheur de cette tension est l'instruction donnée vendredi dernier aux responsables militaires de procéder au démantèlement d'une dizaine de barrières jugées illégales érigées par les Wazalendo. Une décision prise suite à de nombreuses plaintes des usagers de la route nationale numéro 2 qui dénoncent les tracasseries imposées par certains éléments Wazalendo à ces postes. Côté Wazalendo, la mesure est perçue comme une pilule amère. C'est mercredi, alors qu'un élément Wazalendo tentait d'ériger une nouvelle barrière autour de Mwenga Centre, un groupe rival s'est opposé à cette initiative. Face à cette opposition, un échange de tirs s'en est suivi, provoquant une vive panique au sein de la population. Pour certains responsables Wazalendo impliqués dans ces pratiques décriées, l'érection de ces barrières serait motivée par les soucis des contrôles et des préventions contre toute infiltration de la rébellion du M23, une version qui ne partage pas un acte de la société civile locale ayant requis l'anonymat. Selon lui, plusieurs groupes Wazalendo profitent de la volatilité sécuritaire pour s'enrichir aux dépens de la population. Contacté par Radio Okapi, l'administrateur du territoire de Mwenga a minimisé l'incident. Il a assuré que l'événement appartient désormais au passé, précisant que les deux parties ont fumé les calumets de la paix.
Dans la province du Tanganyika, le chef milicien Mutono Mukabila, leader du groupe armé portant le même nom, a été capturé et se trouve présentement dans les mains des services de sécurité à Kalemie. L'annonce a été faite à Moba par le gouverneur du Tanganyika hier mercredi au cours d'un point de presse. Pendant ce temps, 60 éléments, dont une femme de ce groupe armé, se sont volontairement rendus aux autorités et ont déposé des armes blanches. Paul Amunanga.
Pour le gouverneur du Tanganyika, plusieurs tentatives pour dissuader le chef du groupe armé d'autodéfense Mutono à déposer les armes volontairement n'ont pas abouti. Ainsi, les forces de sécurité ont mené les opérations qui ont abouti à sa capture. Christian Kitungwa.
On voulait que notre frère Mutono sorte par la grande porte, comme
un fils égaré qui a décidé de rejoindre ses concitoyens. Faute de cette sortie, nous avons décidé de mener les opérations jusqu'à ce que nous l'avons capturé.
Au cours d'une cérémonie, 60 éléments du groupe d'autodéfense Mutono ont déposé plusieurs flèches devant le gouverneur du Tanganyika en scandant des chansons. L'un de ces éléments s'exprime. Je réponds au nom de Santo Kalembwe Pierre. Je suis un combattant du groupe d'autodéfense. Aujourd'hui, j'ai décidé d'abandonner ce mouvement devant le gouverneur du Tanganyika. Cela fait beaucoup d'années que nos enfants n'étudient pas. Il n'y a pas de vaccins ni de soins de qualité. Nous demandons au gouverneur de bien nous garder et que nous puissions vivre comme les autres dans des villages. Signalons que Mutono et sa bande ont semé la terreur et la désolation pendant plusieurs années dans différents endroits du territoire de Moba, notamment au village Maseba, dans la chefferie Kansabala. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, nous apprenons que l'équipe des enquêteurs sur les massacres des civils commis par les groupes armés dans la région de Fataki, en territoire de Djougou, a suspendu hier mercredi ses travaux. En cause, l'insécurité dans la zone et le manque de collaboration de certaines couches de la population. L'auditeur supérieur dit craindre le retard dans la quête de la justice pour les victimes des crimes commis par les groupes armés. Martial Kizabiamongu.
Parmi des raisons qui ont poussé les enquêteurs à suspendre leurs travaux sur les massacres des civils de Har et Djaïba entre le 8 et 12 février 2025, l'auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri cite entre autres les menaces de miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga. Le colonel Joseph Makelele déplore également l'intoxication d'une partie de la population par certains hommes politiques qui leur ont interdit de collaborer avec les enquêteurs. Cependant, il rassure que ces crimes étant imprescriptibles, quel que soit l'état qu'il faudra, leurs auteurs seront poursuivis afin de rendre justice aux victimes. Notons que la mission était composée notamment de la justice militaire, des experts des droits de l'homme de la MONUSCO Bounia, des médecins légistes de la PNC, des secouristes de la Croix-Rouge ainsi que des agents de l'ONG Avocats Sans Frontières, ASEF. Elle avait pour objectif de réunir des éléments de preuve sur des crimes graves commis à Djaïba et Har par des miliciens afin que leurs auteurs soient identifiés et punis. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, a exprimé hier mercredi la volonté du gouvernement d'améliorer l'administration de la justice. Il a livré cette information lors du briefing de presse co-animé avec son collègue en charge de la communication et des médias, Patrick Muyaya. Le patron de la justice congolaise se propose d'assainir les lieux de détention à travers le pays. Pour y parvenir, Guillaume Ngefa promet de mener de nouvelles réformes et de mettre en place un plan d'urgence. Propos recueillis par Blaise Chindani.
La situation de nos compatriotes qui sont en détention est très alarmante. Je donne juste un exemple. Dans la seule prison de Kasapa, qui héberge aujourd'hui entre 2600 et 2700 détenus, on a prélevé 800 cas de tuberculose. Et il y a à peu près aussi 1800 et quelques d'autres détenus qui sont en train de recevoir le traitement préventif. La promiscuité dans les lieux de détention est aussi un problème. Nous pourrions avoir un programme d'urgence pour nous assurer que les compatriotes qui sont détenus ne puissent pas être considérés comme de personnes qu'on envoie au mouroir. Nous devons nous assurer que ces personnes-là sont réinsérées dans la société. Je me suis aussi rendu compte que dans nos lieux de détention, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes. En dehors des maladies, mais il y a aussi la promiscuité en termes de détention, parce que vous trouvez des enfants avec leur mère, et ça nécessite que nous puissions avoir un programme d'urgence pour adresser cette question et penser à reconstruire les détenus.
Entre-temps, en province, au Nord-Kivu notamment, la MONUSCO renforce la justice militaire. La mission onusienne a doté hier mercredi la maison de justice militaire de Beni des matériels informatiques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un système de gestion électronique des documents, un projet soutenu par la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et salué cet appui. Marc Marofimbo nous en parle.
La dotation comprend des ordinateurs, des imprimates et d'autres outils informatiques. Ces équipements faciliteront le travail au sein de la maison de justice militaire de Beni. Ils vont en effet permettre une meilleure sécurisation et l'archivage des dossiers judiciaires là où il existait auparavant qu'une seule vieille machine, a indiqué le président du tribunal, le colonel magistrat Guy Nyembo.
C'est une bonne chose, ça va beaucoup nous aider dans le travail, surtout dans les imprimés, dans les assignations et autres. On a une vieille machine qu'on utilise, et ça nous aide aussi. Mais ça va nous renforcer. Nous les remercions. C'est bienvenu et nous allons les gérer en bon père de famille.
Signalons que cet appui en équipement informatique vient s'ajouter à d'autres initiatives de la MONUSCO, notamment l'appui technique aux autorités judiciaires militaires dans les enquêtes et poursuites des crimes internationaux, la construction du bâtiment de l'auditorat militaire et la mise à disposition d'engins roulants. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, pour améliorer la qualité et la quantité de la production avicole et porcine au Maniema, les éleveurs des poules et des porcs ont été formés sur les pratiques modernes de l'élevage des poules et des porcs. Cette formation visait à encourager le passage de l'élevage en divagation à l'élevage en stabulation. Les 38 éleveurs bénéficiaires de cette initiative promettent de mettre en pratique les connaissances acquises. Organisées par le Service national de promotion de l'élevage familial et intra-connexe. Cette formation de 5 jours, financée par le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR, s'est clôturée mardi dernier. Florence Kizalunga pour plus de détails.
Selon l'un des formateurs, Moïse Osomba, l'élevage en stabulation vise à améliorer les conditions de vie des animaux et à optimiser leur production.
L'élevage en stabulation, c'est l'opposé de l'élevage en divagation. C'est-à-dire, on garde les animaux enfermés et on les entretient en suivant leur alimentation, leur reproduction et en améliorant leurs conditions de vie.
Les participants visiblement satisfaits espèrent que cette formation leur permettra d'améliorer leur production. Masanzi Kibonge Béatrice de l'association Pamoja Tujenge Kwetu partage son enthousiasme.
Moi, j'élève le porc et le poule, mais en divagation. Mais grâce à cette formation, on m'a appris comment l'élever à stabulation. En tout cas, j'espère que je vais changer ma façon de travailler et je vais prospérer.
Le coordonnateur provincial du Service national de promotion de l'élevage familial et intraconnexe, ingénieur Sylvain Idou, s'attend à des changements significatifs dans les pratiques des éleveurs.
Nous attendons à ce que les éleveurs du Maniema puissent changer d'abord le mode d'élevage qu'ils pratiquent, tout en se séparant de l'élevage en divagation.
Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Matadi, dans le Congo central, le mauvais état du tronçon reliant le rond-point Mikondo aux avenues Kinshasa et Landou dans la commune de Mvouzi donne du fil à retordre aux conducteurs des motos. D'après ces derniers, ils connaissent des accidents tous les jours et ce sont des passagers, majoritairement des élèves, qui s'en sortent avec des blessures et des fractures notamment. Ils lancent un cri de détresse au maire de la ville, Dominique Kodiam Pété, et au gouvernement provincial pour la réhabilitation de cette route. Le point avec Nana Purichmambo.
Les tronçons reliant les ronds-points Mikondo aux avenues Kinshasa et Landou dans la commune de Mvouzi se trouvent dans un état de délabrement avancé. Et pourtant, il est très important pour les habitants de ces coins car il passe par l'église catholique Saint-Gérard, la mission kimbanguiste, pour aboutir à la place dite Momo. Cette route est parsemée de nids de poules. Ces conducteurs de motos appellent les autorités à penser à sa réhabilitation.
En tout cas, nous avons des difficultés par rapport à cette route. Il y a des accidents qui se font ici, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune personne là du gouvernement congolais est venue pour voir cette route. Voilà pourquoi nous avons des difficultés. Et nous demandons au maire de la ville de nous venir en aide pour éviter le cas des accidents.
Signalons qu'en début 2024, la mairie de Matadi avait fait jeter des concassés et du sable sur cette voie dans l'optique de la bétonner, mais jusqu'à présent, les travaux ne débutent toujours pas au grand désarroi de la population. Matadi, Nana Plirish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Manifestation contre la venue de Donald Trump au Royaume-Uni en visite d'État pour 2 jours. Le président américain se prépare à un pompeux banquet d'État ce soir au château de Windsor en présence du roi Charles III, du premier ministre et des chefs d'entreprise et d'élus. Un banquet donné à l'occasion de sa visite de 2 jours au Royaume-Uni. À travers le pays, plusieurs manifestations ont été organisées pour protester contre la venue du Républicain.
L'invité.
L'insécurité persistante dans l'est de la RDC complique l'accès aux humanitaires, aux populations, l'accès humanitaire aux populations vulnérables. Face à cette situation, l'ONG Caritas Congo lance un appel à la communauté internationale pour intensifier les efforts de pacification et à ses partenaires pour atténuer les effets des coupes budgétaires qui affectent les organisations humanitaires. Ce plaidoyer a été formulé en marge d'une table ronde organisée à Kinshasa avec ses partenaires. Pour en parler, nous recevons le secrétaire exécutif de Caritas Congo, l'abbé Édouard Makimba. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Monsieur l'abbé Édouard Makimba, bonjour.
Bonjour monsieur.
Comment votre organisation, la Caritas Congo, envisage-t-elle de coordonner les réponses face aux crises humanitaires et climatiques auxquelles fait souvent face le monde et qui sont souvent des défis auxquels est confrontée votre organisation?
Merci beaucoup pour votre question. Justement, c'est le bien fondé de cette table ronde parce que nous voulons réfléchir, nous créons cet espace pour pouvoir réfléchir avec les différentes parties prenantes du réseau Caritas au niveau international, comment ensemble réfléchir et trouver une synergie dans la coordination de nos actions humanitaires. Parce que c'est un plaidoyer qui a été mené il y a de cela une année. Nous avons fait des voyages en Europe justement dans ce sens-là pour pouvoir sensibiliser les différents partenaires de Caritas du Nord pour qu'on trouve un espace où nous pouvons nous retrouver ensemble et réfléchir par rapport à ces processus de coordination pour créer une synergie dans nos interventions. Il est vrai que nous avons constaté dans le passé que nos partenaires du Nord, de Caritas et Sœurs, ils ont des relations bilatérales avec certaines Caritas du Sud qui font partie de notre réseau de Caritas Nord et les interventions étaient d'une façon dispersée. Et nous avons jugé bon qu'ensemble, qu'on puisse trouver ce cadre des réflexions, d'analyse pour qu'on puisse créer cette synergie pour l'avenir, que les coordinations soient ordonnées et coordonnées en vue de donner des réponses adaptées selon le besoin qui émane des crises et qui émane bien sûr de sollicitations de nos populations qui sont en situation de précarité.
D'ordinaire, à quoi se butent vos interventions sur le terrain?
Présentement, nous avons, c'est l'accès. L'accès, ça pose problème. La situation actuelle, nous avons un problème sérieux pour accéder dans la partie est, parce que, et surtout l'accès de l'aide. Nous faisons la mobilisation, nous faisons la sensibilisation, mais nous avons un problème pour acheminer ces aides du fait que l'aéroport de Goma est fermé, l'aéroport de Bukavu est fermé et cette population de la partie d'Est est dans le besoin, mais comme vous le savez, il y a un souci que nous plaidons pour que ce souci puisse trouver des solutions et que le pays soit unifié, surtout par le dialogue, pour permettre à ce que les idées que nous avons, les aides que nous avons, la mobilisation que nous menons auprès de nos partenaires et que l'aide que nous recevons puisse être acheminée en bonne et due forme dans cette partie de l'Est où les besoins sont vraiment énormes. Et aussi, l'aide de plus en plus, l'aide devient difficile. Vous avez appris avec des coupes budgétaires, de plus en plus c'est un problème sérieux pour mobiliser des fonds en vue de répondre. Les besoins sont là d'un côté, mais les moyens sont très limités. Même le peu que nous mobilisons, nous avons du mal à pouvoir les acheminer. Voilà. C'est aussi un plaidoyer que je voudrais lancer à la communauté internationale, à la communauté nationale, pour qu'on cogite ensemble les efforts en vue de trouver des solutions appropriées et durables pour pacifier le pays.
En organisant cette table ronde, vous attendez à quel résultat?
Les réflexions vont tourner autour de 3 thématiques. D'abord, la localisation, le partenariat et la coordination de l'aide humanitaire. Nous voulons vraiment qu'on puisse redéfinir ensemble avec les parties prenantes du réseau Caritas notre mode de collaboration dans le partenariat et aussi bien sûr le transfert des compétences aux communautés locales, aux acteurs locaux, parce qu'on prêche de plus en plus cette localisation. Il faudra aussi un processus d'accompagnement dans ce transfert des compétences et surtout trouver une synergie dans la coordination.
Vous avez parlé des difficultés d'accès dans les zones à conflit, notamment Goma et Bukavu, à cause de l'insécurité. On peut dire que Caritas Congo est absente dans ces zones à conflit?
La Caritas Congo, c'est un réseau. La Caritas qui a comme siège ici, c'est le bureau national. Mais Caritas Congo, c'est un réseau qui a à son sein 48 Caritas diocésaines. Quand nous parlons de Caritas Congo, nous voyons Caritas Goma, qui fait partie de la Caritas Congo. Nous voyons Caritas Boudia, Caritas Beni Butembo, Caritas Uvira, Caritas Goma, et comme les Caritas de l'Est, parce qu'il y a aussi des problèmes d'insécurité, des problèmes aussi de besoins humanitaires dans la partie ouest. Donc nous sommes présents. La force de la Caritas Congo, c'est cet ancrage. Nous sommes présents sur tous les territoires de la République démocratique du Congo. Donc, le bureau national, c'est un bureau de coordination, un bureau de plaidoyer, de renforcement des capacités, et des suivis financiers, des suivis techniques de nos actions que nous réalisons dans les différentes Caritas diocésaines. Donc, vous ne pouvez pas dire que nous sommes absents. Nous sommes avec des populations pour les soutenir et les servir.
Monsieur l'abbé, merci.
Je vous en prie.
Ainsi prend fin à ce journal coordonné par Polly Mousalia et mis en onde par Billy Landry-Bétou. Réécoutez-le sur notre site internet radiocapi.net.